Le fils d'un commerçant grièvement blessé à Koumak, il a reçu un coup de couteau porté par un voleur hier. Il a été hospitalisé. Quant à l'agresseur, il est actuellement en garde à vue. L'armée lance de grands travaux sur la base aérienne. Lieutenant Paul Klein, un chantier de 3 milliards de francs. Objectif, pouvoir accueillir plus longtemps les avions A400M de l'armée. Interdire les réseaux sociaux moins de 15 ans, la proposition de loi du camp présidentiel est étudiée en ce moment par les députés. Le point dans ce journal. Gérald Darmanin veut mettre l'immigration en mode pause. Le garde des Sceaux propose de suspendre les entrées régulières pendant 2 ou 3 ans. Par ailleurs, il milite pour une primaire du bloc central pour la présidentielle de 2027. Le sport et du football, objectif Coupe du Monde 2027. Hier soir avait lieu le premier rassemblement de la nouvelle sélection féminine de Nouvelle-Calédonie. Elle est dirigée par Christelle Wanawe. On a assisté hier à cet entraînement de reprise. La météo en Nouvelle-Calédonie, le soleil domine sur l'ouest et la pointe sud. Ailleurs, les nuages prennent l'avantage avec des averses qui se développent sur le relief. L'alizé de sud-est se renforce, 15 à 20 nœuds. Quant aux températures maximales, elles sont comprises entre 29 et 30 degrés. Localement, 31 degrés à 32 degrés sur la côte ouest.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une, l'actualité en Nouvelle-Calédonie.
Oui, un commerçant a donc été agressé à l'arme blanche hier à Koumak. Un homme est entré dans un magasin d'électronique, de téléphonie et d'équipement informatique. Il a tenté de dérober un article et a pris la fuite, mais le fils du commerçant l'a poursuivi. C'est alors que le voleur s'est retourné apporter un coup de couteau dans le ventre de sa victime qui a perdu beaucoup de sang. Elle a été transportée à l'hôpital de Koné. Ses jours ne sont pas en danger. Quant à l'agresseur, il a été interpellé et placé en garde à vue. Je le disais en titre, des ambitions pour la base aérienne 186, lieutenant Paul Klein. La France souhaite développer son influence dans la région et investir dans des projets d'aménagement à la Tontoutal et Anna Colombo.
Et d'ici 2031, la flotte doit être renouvelée. De nouveaux hangars doivent être construits et la piste agrandie. Compte tenu des enjeux géostratégiques de la région, Tontoutal doit être capable d'accueillir toujours plus gros. C'est ce que nous a dit le colonel Jean Grandpierre, commandant de la base aérienne.
On s'est rendu compte avec l'exercice Croix du Sud, les changements géopolitiques de la région, que la base aérienne devait être en capacité d'accueillir des avions toujours plus gros. On a un parking qui paraît très gros, mais qui va avoir besoin de grandir encore pour accueillir plus d'avions, notamment les renforts, comme on l'a vu, les avions américains, les avions australiens, néo-zélandais, et de pouvoir les accueillir du côté militaire pour ne pas saturer l'aéroport civil. Donc on va avoir plusieurs phases de travaux avec une augmentation du parking, avec également des nouveaux avions qui vont arriver, de surveillance maritime qui vont pouvoir rester plus longtemps en l'air, mieux voir avec de nouveaux capteurs, avec des nouveaux hélicoptères qui vont être un peu plus gros, donc ils vont pouvoir aller un peu plus loin, prendre plus de personnes. Et à l'horizon 2031, un A400M qui va avoir son hangar de maintenance en Nouvelle-Calédonie.
600 millions de francs pour les nouveaux hangars pouvant accueillir par exemple des hélicoptères Caracal, 1,5 milliard pour l'agrandissement de la piste. Mais le plus gros chantier reste celui du hangar de maintenance de l'A400M, un projet à près de 3 milliards de francs pour lequel les entreprises calédoniennes pourront participer via un appel d'offres. Actuellement, les appareils les plus imposants qu'accueille la base aérienne de manière permanente sont les deux CASA. Mais d'ici 2031, cela pourrait donc être l'A400M, un avion aux capacités nettement supérieur. Il sert notamment à des missions d'assistance aux populations. Son équipage a simulé hier une opération de sauvetage en mer.
Ce vol va durer environ 2 heures de temps. Ce sera un vol d'entraînement de recherche et sauvetage maritime.
Un bateau de la SNSM va partir du port pour mettre un homme à la mer. Et l'objectif de l'équipage va être de retrouver cet homme à la mer et de lui envoyer un kit de survie avec un canot de sauvetage, des vivres, de l'eau. Pour donner un ordre d'idée, le CASA va mettre 5h30 pour aller à Wallis. La 400M est 3h30. Et donc le CASA peut embarquer un peu moins de 4 tonnes pour aller à Wallis. La 400M est plutôt sur 40 tonnes. Donc on est sur d'autres capacités. La 400M ne sera pas toujours en Nouvelle-Calédonie, mais on pourra faire des entretiens pour pouvoir lui donner du potentiel. Il ira renforcer la Polynésie. Il pourra travailler également avec des partenaires étrangers, Australie, Nouvelle-Zélande, Papouasie, voilà. Donc rayonner vraiment dans tout le Pacifique. Et le CASA, lui, fera le même job qu'aujourd'hui sur l'archipel.
Les projets d'aménagement de la base aérienne doivent être menés sur au moins 6 ans d'ici 2031.
L'actualité en bref est Florence Roland qui écrit aux habitants de La Foy. Le maire sortant annonce qu'elle est candidate à sa succession et qu'elle conduira une liste d'union pour les élections municipales des 15 et 22 mars prochains. Son courrier est d'ailleurs co-signé par Lionel Brinon pour les loyalistes, Jean-Paul Paroua pour le Rassemblement. Parmi les priorités, Florence Roland met en avant la sécurité, la dynamique économique ou encore la poursuite des investissements d'équipements essentiels.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à la question d'hier, tout d'abord, 58% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS estiment que les élections municipales sont des élections politiques. Ils sont donc 42% à penser que ce n'est pas le cas. Voici maintenant notre question du jour. Quelle est votre réaction après la réélection d'Emmanuel Tchibaou à la présidence de l'Union calédonienne qui tenait son congrès le week-end dernier à Marais? Êtes-vous inquiet, surpris ou rassuré? Si vous êtes inquiet, vous tapez 1. Si vous êtes surpris, vous tapez 2. Et si vous êtes rassuré, vous tapez 3. Et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. Et enfin, vos rendez-vous d'antenne. Le projet de loi constitutionnelle issu de l'accord de Bougival, il prévoit le dégel du corps électoral pour les élections provinciales. En parallèle, l'association Un cœur, une voix a décidé de saisir la Cour européenne des droits de l'homme pour demander l'ouverture du corps électoral provincial pour la prochaine mandature en cas de nouveau blocage du processus. Pour en parler, nous recevrons tout à l'heure à 7h30 Raphaël Romano. Il est le président de l'association Un cœur, une voix et il sera notre invité du matin à 7h30. Et puis il y a deux semaines, le gouvernement a présenté un projet de loi du pays visant à encadrer les opérations aériennes domestiques sur le territoire. Ces nouvelles réglementations concerneraient les exploitants commerciaux d'avions, d'hélicoptères ou d'ULM. Alors qu'en pensent les professionnels du secteur? Nous en discuterons ce midi dans notre magazine Citoyen avec Jean-Michel Rio, le gérant de Calédonia Aviation, Günther Hickmann, qui est le gérant de la société Ovol, ou encore Olivier Paul, responsable d'Air Paradise. Ils pourront échanger avec un représentant de la direction de l'aviation civile qui sera aussi présent dans nos studios. Ce sera l'occasion d'échanger avec ces professionnels de l'aéronautique sur l'état global du secteur en Nouvelle-Calédonie. Il est 6h passé de 38 minutes. Vous écoutez Radio Rythme Bleu. Merci d'être avec nous. On va marquer une première pause publicitaire dans ce journal avant de voir toute l'actualité en métropole et dans le monde.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Tous les dimanches de 5h à midi, c'est la foire aux affaires au drive-in du Pont des Français. Vide-grenier, brocante, plantes vertes, places à emporter et beaucoup d'autres bonnes surprises à ne pas rater. Louez un stand au 24 39 01 au 174 rue Auguste Bénébig à Magenta. Entrée par le showroom Mazda.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonce-légale@rrb.nc ou au 25 46 46.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
Et à la une de l'actualité en métropole, l'ouverture du procès en appel dit Samuel Paty dans la nuit dernière pour nous. 4 accusés sont donc rejugés par la cour d'assises spéciale de Paris. Il s'agit de 2 amis d'enfance du terroriste islamiste et de 2 hommes à l'origine de la campagne en ligne ciblant le professeur d'histoire géo. Ils avaient été condamnés en première instance à des peines allant de 13 à 16 ans de prison. Tous avaient été reconnus coupables d'avoir participé de près ou de loin à l'attentat islamiste survenu en 2020. C'est donc une première journée d'audience qui était consacrée au rappel des faits. Jean-Baptiste Marty était au palais de justice de Paris pour Europe 1.
Oui, près de 3 heures de lecture, la présidente revient sur cette journée du 16 octobre 2020. Elle décrit une scène d'une extrême barbarie. À la sortie des cours, Samuel Paty est décapité par Abdoulaye Nzorov, terroriste islamiste. La tête est détachée du corps, précise la présidente, le regard plongé dans ses notes. L'arme du crime, un couteau d'une lame de 19 cm. Et puis ses paroles, j'ai vengé le prophète Mahomet, scandé par l'assaillant. Le Tchétchène radicalisé poste même la photo du professeur égorgé sur les réseaux sociaux avant d'être abattu par la police. Un récit douloureux pour les parties civiles. Michaël Paty, sœur de Samuel Paty, s'attend à des débats difficiles dans les prochains jours.
Ils vont jouer autant que possible de faire diminuer les peines qu'ils ont écopées en première instance. Ça ne m'étonne pas. Ça fait, je dirais, plusieurs mois que j'ai collecté des informations très importantes que je livrerai la semaine prochaine.
Vous attendez quoi, vous, là ?
Que la République soit encore là, qu'elle les condamne et qu'elle les condamne plus lourdement qu'en première instance.
Les accusés doivent prendre une première fois la parole demain. La cour doit les interroger sur leur parcours personnel.
Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. la France se dirige vers une interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Une proposition de loi en ce sens est examinée en ce moment même à l'Assemblée nationale. Le texte porté par la députée Renaissance, Laure Miller, et soutenu par le gouvernement, prévoit également l'interdiction du téléphone portable au lycée. Et un large consensus pourrait être trouvé parmi les différentes forces politiques. Alexis de la Fontaine pour Europe 1.
Oui, sauf coup de théâtre, les députés vont voter l'interdiction des réseaux sociaux pour les mineurs de moins de 15 ans. L'ensemble des groupes politiques y sont favorables, hormis la France insoumise, comme se justifie le député Rodrigo Arenas.
L'expérience australienne montre qu'en fait ça ne marche pas, puisque ce n'est pas la question. Aujourd'hui, on est sur la culpabilisation et la criminalisation des usagers, alors que nous, on pensons à la France insoumise qu'il faut au contraire pénaliser ceux qui sont des véritables dealers pour nos enfants, puisque les algorithmes et le fonctionnement provoquent des addictions. Donc nous considérons aujourd'hui qu'il faut aller taper les plateformes et non pas les victimes de ces plateformes numériques que nous connaissons tous.
Pour Gabriel Attal, cette victoire est très importante, car l'ancien Premier ministre s'est investi depuis longtemps dans la lutte contre la haine et le harcèlement en ligne. Alors la députée Renaissance, Prisca Thévenot, appelle les députés à la responsabilité.
Nous avons abouti à un texte extrêmement sérieux, ficelé et attendu. Donc oui, nous espérons légiférer aujourd'hui pour une application dès la rentrée prochaine, et je pense que c'est attendu et souhaité.
Une interdiction en septembre prochain pour laisser le temps aux réseaux sociaux de mettre en place un système de vérification d'âge tout en protégeant l'anonymat en ligne.
Alexis de la Fontaine à l'Assemblée nationale pour Europe 1 et cette proposition de loi pour interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans devrait être examinée au Sénat mi-février avant une mise en œuvre dès la rentrée scolaire de septembre 2026 en métropole en cas de feu vert du Parlement. La France qui deviendrait ainsi le deuxième pays à adopter une mesure aussi stricte après l'Australie. Mais alors, qu'en pensent les premiers concernés? Écoutez l'avis de collégiens parisiens.
C'est pas vraiment une bonne idée parce que quand on s'attache trop et c'est comme de la drogue, t'arrives plus à t'en détacher.
Ça sert à rien parce que ça va vraiment me limiter la communication avec mes amis et d'autres personnes. Je suis obligée de vivre avec mes réseaux.
À partir de 15 ans, je pense qu'on a une maturité pour savoir gérer ses écrans et en 6e, 5e, 4e, on n'est pas encore mature.
9 associations de protection de l'enfance appellent par ailleurs à responsabiliser les plateformes pour qu'elles protègent les mineurs plutôt que de bannir les enfants des réseaux sociaux. Toujours dans l'actualité parlementaire, la reprise des débats autour de la fin de vie au Sénat. Un vote solennel est toujours prévu demain. Même si la proposition de loi est largement vidée de sa substance depuis le retrait par les sénateurs la semaine dernière de l'article visant à légaliser toute aide active à mourir, que ce soit l'euthanasie ou le suicide assisté. Les débats tournent désormais autour d'un sujet beaucoup moins polémique, le développement des soins palliatifs. Maïalène Trémollet pour Europe 1.
Dans un hémicycle quasiment vide, c'est sur le meilleur accès aux soins palliatifs que les sénateurs débattent, mais aussi sur la définition précise de ces soins. Emmanuel Capus, sénateur indépendant.
Nous arrivons enfin au débat par lesquels nous aurions dû commencer. C'est bien sûr le soulagement de la souffrance. C'est aussi l'accompagnement des familles et c'est en réalité l'accompagnement jusqu'à la fin de la vie. Donc c'est beaucoup plus global.
Des soins qui ne visent ni à hâter ni à différer la venue du décès selon la définition voulue par les sénateurs. Si le texte beaucoup plus consensuel devrait emporter l'adhésion d'une très grande majorité de l'hémicycle, plusieurs sénateurs s'inquiètent cependant de son financement malgré les 100 millions d'investissements déjà sanctuarisés par le gouvernement pour 2026 et réclament la création de maisons d'accompagnement et de soins palliatifs pour établir un lieu intermédiaire entre la maison et l'hôpital. Prochaine étape, le vote prévu après-demain, en même temps que le premier texte sur la fin de vie qui incluait la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté, avant d'être transformé en simple loi d'accompagnement excluant tout geste létal.
Maïalène Trémollet du service politique d'Europe 1. Et toujours dans l'actualité parlementaire, on vient de l'apprendre, la réforme constitutionnelle sur la Nouvelle-Calédonie qui transcrit dans la loi l'accord de Bougival, complété de l'accord Élysée-Oudinot, sera donc examinée le 24 février au Sénat. Ce sera la première étape du calendrier qui a été dévoilé dans cet accord complémentaire Élysée-Oudinot. Et ensuite, les sénateurs seront donc saisis en première lecture juste avant la suspension des travaux parlementaires pour 3 semaines pour cause d'élections municipales. L'actualité politique toujours, et on parle aussi élections avec Gérald Darmanin qui songe véritablement à la présidentielle. Pour autant, le ministre de la Justice insiste sur une primaire du bloc central. Et au passage, Gérald Darmanin propose de stopper l'immigration pendant 2 ou 3 ans. Alors comment interpréter cette proposition? L'analyse de Jacques Serret pour Europe 1.
Oui, la présidentielle, Gérald Darmanin y songe, dit-il. Et s'il n'est officiellement pas candidat, s'il n'a pas encore de programme, il a bien des propositions.
Si on veut un débat qui consiste à dire, par exemple, imaginons une suspension de l'immigration pendant 2-3 ans, pourrait imaginer cela.
L'ancien ministre de l'Intérieur, désormais garde des Sceaux, s'explique.
Suspension pendant 2-3 ans.
Ça veut dire que pendant 3 ans, on arrête le cours de l'immigration.
Régulière.
Régulière.
Donc le regroupement familial, l'immigration de travail, par exemple. Le deal qu'on peut avoir avec la population française, c'est qu'on arrête cette immigration, mais on intègre tous ceux qui sont là. Aujourd'hui, les immigrés, c'est les plus mal logés. C'est ceux qui sont le plus au chômage et c'est ceux qui ont le plus de difficultés par nature.
Stopper l'immigration pour mieux intégrer un projet qui nécessiterait un référendum afin de modifier la Constitution. Un marqueur de plus pour Gérald Darmanin qui cherche à se différencier d'Édouard Philippe et de Gabriel Attal à 15 mois de la présidentielle.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1. L'armée israélienne se réjouit d'avoir tenu sa promesse de ne jamais abandonner personne à Gaza. Déclaration quelques heures après le retour dans l'État hébreu du dernier otage du Hamas décédé en captivité. Le corps du policier Irang Vili vient d'être identifié et remis à ses proches. Ce retour devrait ouvrir la porte à la phase 2 du plan de paix de Donald Trump, signé en octobre dernier, avec notamment la réouverture du point de passage de Rafah entre l'Égypte et l'enclave palestinienne. En bref, le président américain prend la parole. 2 jours après la disparition d'Alex Preti, un manifestant mort sous les balles de la police de l'immigration de Minneapolis aux États-Unis. Donald Trump qui déplore une tragédie tout en rejetant la faute sur les autorités démocrates du Minnesota qui organisent, selon lui, une résistance délibérée et hostile à la politique migratoire de l'État fédéral. Il est 6h47, vous écoutez Radio Rythme Bleu, merci d'être avec nous. On va marquer une nouvelle pause publicitaire dans ce journal avant de voir la suite de l'actualité sur le territoire et on reviendra notamment sur la collecte de l'Ordre de Malte.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
La ville de Nouméa recrute des sapeurs-pompiers volontaires.
Si vous souhaitez travailler au centre de traitement de l'alerte situé à Normandie, vous avez jusqu'au 16 janvier pour postuler.
Et si vous préférez exercer dans un des 2 centres de secours, vous pouvez candidater jusqu'au 6 février. Toutes les infos, conditions, phases de recrutement et dossiers de candidature sont disponibles sur le site de la ville www.nouméa.nc ou sur la page Facebook Nouméa Ma Ville.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez le 24 38 18.
Bonne année avec Canal+. Et si 2026 vous offrait toutes les chaînes Canal+ à tarif canon pendant un an, en janvier, profitez de l'offre exceptionnelle à 3000 francs par mois au lieu de 8000 francs par mois pendant un an. À vous le cinéma ultra récent, F1, le film, Mission Impossible, The Final Reckoning ou encore les nouvelles saisons de Loup-Garou et BRI. Retrouvez aussi le meilleur du sport avec l'UEFA Champions League et 100% du top 14. Tout ça, c'est sur Canal+ à seulement 3000 francs par mois au lieu de 8000 francs par mois pendant un an. Faites-vous plaisir. Offre valable jusqu'au 31 janvier pour tout nouvel abonnement de 12 mois à Sélection Plus. Moins en cours offert, puis 3000 francs par mois au lieu de 8000 francs par mois pendant 12 mois. Plus d'informations sur canalplus-calédonie.com.
Dans un cadre idyllique à Lanzvata, le restaurant Le Fun vous invite à une expérience unique et conviviale. Découvrez le concept Steak Stone, viandes et poissons à cuire sur pierre chaude. Envie de fraîcheur? Craquez pour nos salades, suggestions de la semaine ou place à la carte. Le Fun, votre Steak Stone face à la mer, ouvert 7 jours sur 7. Info sur notre page Facebook Le Fun, réservation 28 67 08.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
La suite d'Info Matin, on retrouve Nicolas Legrand.
Et ce week-end, c'était donc les journées mondiales de lutte contre la lèpre. Sur le territoire, l'Ordre de Malte a organisé sa quête annuelle pour faire face à cette maladie qui est toujours présente en Nouvelle-Calédonie. Et Yann Carpentier, le responsable en Nouvelle-Calédonie de l'Ordre de Malte, a tenu à remercier les Calédoniens qui ont été généreux. Ils ont donné, malgré le contexte économique compliqué.
Le bilan en soi financier, évidemment, il n'est pas florissant, mais la situation est la situation. Nous, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Ce sera le plus beau de l'affaire. Je voudrais par votre biais remercier, parce que malgré la situation économique, malgré les difficultés qu'ils ont au quotidien, eh bien, tous ont eu un geste et surtout des encouragements qui nous ont touchés. De nouveau, je le dis, merci à eux. Parce que du coup, nous voilà mieux armés encore pour se dire, en avant, on va repartir à l'assaut et on va aider à propager, à faire en sorte que ce message passe le plus loin possible.
Nombreux étaient donc les bénévoles à s'être mobilisés ce week-end devant les centres commerciaux et aux sorties des messes sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Et après la quête, il est désormais temps de passer aux actions de terrain. C'est ce à quoi servira l'argent récolté, rappelle Yann Carpentier.
Maintenant, on se déplace de plus en plus loin. Donc, chaque fois qu'on fait des déplacements et qu'on va dans les lieux à circuler, c'est quand même 400 km, 300 km, etc. Donc, des allers-retours, parfois des nuits aussi. Donc, il faut trouver à se loger, il faut se nourrir, etc. Il faut distribuer des flyers. Il y a des panneaux à réaliser pour renseigner tous ceux à qui on fait les présentations. Donc, vous voyez, tout ça, c'est un coût. Et comme nous, on n'a aucune subvention, on n'est pas aidé du tout. Cet argent sert pour une partie à ce qu'on fait ici. Et puis, pour le reste, l'argent qui n'est pas utilisé ici est envoyé donc en métropole parce que la France soutient 12 léproseries. Ça, ça coûte malheureusement très très cher dans des pays qui sont très pauvres.
En 2025, 4 nouveaux cas de lèpre ont été déclarés en Nouvelle-Calédonie. La province Sud sollicite les artistes plasticiens professionnels. Il s'agit de les solliciter pour une exposition d'art à ciel ouvert qui sera installée dans le parc provincial zoologique et forestier. Elle lance donc un appel à projet dans le cadre des résidences artistiques du PPZF. Les artistes plasticiens professionnels, qu'ils soient seuls ou en collectif, sont invités à visiter le lieu le 6 février prochain. Ils devront ensuite remettre leur dossier au plus tard le 23 février. Toutes les informations sont disponibles sur le site de la province Sud. À Nouméa, en bref toujours, des travaux entre le giratoire Alma Meto et l'échangeur de Tina. Durant ces 8 prochains mois, la province sud va renforcer la chaussée dans cette zone, soit une surface d'environ 25 000 m² et créer une voie verte de 2 km sur la VDE. Les travaux prévoient également un réaménagement des bretelles sud de l'échangeur de Tina et la mise en place d'un éclairage public. La circulation sera modifiée pendant la durée du chantier. De jour, la route sera praticable avec une vitesse abaissée à 50 km/h, mais de 20h à 5h du matin, une déviation sera mise en place. Le coût total des travaux s'élève à 670 millions de francs, dont 105 millions sont pris en charge par l'État. Il est 6h52, vous écoutez Radio Rythme Bleu, on va marquer une dernière pause publicitaire dans ce journal. Avant de voir toute l'actualité sportive, on parlera évidemment de tennis avec l'Open d'Australie qui se poursuit, mais aussi de football avec la sélection féminine de Nouvelle-Calédonie qui se relance.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Alerte chaleur maximale chez Subaru. L'été fou de Subaru revient. Les prix fondent et les sensations montent. Le Crosstrek, le Forester et l'Outback vous attendent. Robuste, fiable et taillé pour l'aventure avec des offres de folie. Direction Subaru au village automobile à Nouméa au PK4 ou chez NC Motors Kone pour en profiter dès maintenant.
Offre valable jusqu'au 31 janvier 2026 dans la limite des stocks disponibles, voire conditions en concession.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Savez-vous que si vous êtes équipé d'un chauffe-eau électrique, vous pouvez couper son alimentation si vous vous absentez plus de 24 heures afin de supprimer la consommation due au maintien de la température?
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Nicolas Legrand.
Et on ouvre cette page sport avec du tennis dans la région. On connaît toutes les affiches des quarts de finale de l'Open d'Australie chez les dames et chez les hommes, Léana Colombo.
Alors chez les hommes, d'abord, Lorenzo Muzzetti, tête de série numéro 5, a dominé hier soir l'américain Taylor Fritz en 3-7, 6-2, 7-5, 6-4. Au prochain tour, l'italien affrontera Novak Djokovic, le serbe qualifié sans jouer suite au forfait de Jakub Mencić. Dans un duel 100% italien, le tenant du titre Yannick Sinner a écrasé Luciano Darderi en 3-7. Le numéro 2 mondial sera opposé à Ben Shelton, l'américain tombeur de Casper Ruud en 4-7, 3-6, 6-4, 6-3, 6-4. Je rappelle que Carlos Alcaraz, numéro 1 mondial, jouera contre l'Australien Alex de Minaur et l'Allemand Alexander Zverev affrontera l'américain Lierner Tien. Chez les dames, duel 100% américain en quart de finale suite au succès de Jessica Pegula sur la tenante du titre Madison Keys, 6-3, 6-4 et d'Amanda Anisimova sur la chinoise Qin Yuhang, 7-6, 6-4. Et Elena Rybakina n'a laissé aucune chance à Elise Mertens. Victoire en 2-7, 6-1, 6-3. La Kazakh défiera la numéro 2 mondiale Iga Swiatek, tombeuse de l'Australienne Madison Inglis, issue des qualifications en 2-7, 6-0, 6-3. Et pour rappel, les deux premiers quarts de finale verront s'opposer Arina Sabalenka, la numéro 1 mondiale, à l'américaine Iva Djovic et Coco Gauff à Elina Svitolina.
Du handball avec la mauvaise opération du jour. L'équipe de France a perdu son troisième match de poule face à l'Espagne. Les Bleus qui se sont inclinés sur le score de 36-32 et qui permettent donc aux Espagnols d'empocher leur premier point dans la compétition. Et puis le sport sur le territoire également avec du football, puisque vous le savez, il y a un objectif qui a été donné, c'est la Coupe du Monde 2027. Hier soir avait lieu le premier rassemblement de la nouvelle sélection féminine de Nouvelle-Calédonie. Et d'ailleurs, Charlotte Coulson a assisté pour Radio Rythme Bleu à ce premier entraînement de cette sélection féminine.
Une des volontés de notre équipe pour les ambitions de la fédération dans les quatre années à venir, c'était de considérer le football féminin au même titre que le football masculin. Elles ont un vrai potentiel et des vraies chances de qualification. D'ailleurs, ça s'est vu avec les U20 dernièrement. Malheureusement, ça commence aujourd'hui et c'est beaucoup trop tard parce qu'elles n'ont que 3 semaines de préparation. Elles s'envolent fin février, début mars pour les qualifications Coupe du Monde. Donc le staff qui va encadrer ces jeunes filles vont faire ce qu'ils peuvent en 3 semaines. Mais ça va être difficile, mais c'est pas grave. Les filles méritent tout autant que les garçons de participer à ces compétitions. C'est notre vision du football calédonien. On va réinvestir sur le football féminin au même titre que les garçons. Surtout que la FIFA accorde un budget spécial réservé aux filles. Donc il va être utilisé exclusivement pour les féminines.
Steve Legge, le président de la Fédération calédonienne de football. Récemment, une sélectionneuse a été nommée. Il s'agit de Christelle Wanaoué. Elle a lancé une nouvelle dynamique pour cette sélection qui était à l'arrêt depuis les Jeux du Pacifique en 2023. Elle a fait appel à de nombreuses joueuses, des jeunes d'ailleurs, pour préparer les qualifs au Mondial face à Fidji, au Vanuatu et à la Papouasie-Nouvelle-Guinée. La compétition aura lieu fin février. Écoutez les joueuses.
C'est net de reprendre, ça fait du bien de retoucher le ballon, puis retrouver nos amis des sélections.
Je pense que ça va être compliqué, mais on a une bonne équipe, on a un bon effectif, et je pense que cette compétition, on va l'aborder avec beaucoup de motivation et de compétitivité en tête, et beaucoup de mental aussi. Et on a beaucoup de grandes sœurs qui vont nous accompagner aussi et qui seront les piliers de cette équipe. Ce sera une compétition qu'on abordera comme toutes les compétitions, avec une bonne mentalité.
Et la motivation évidemment des joueuses calédoniennes sélectionnées avec l'équipe de Nouvelle-Calédonie pour participer à ces qualifications au Mondial qui aura lieu donc l'année prochaine. Qualification face à Fidji, au Vanuatu et à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, je le rappelle. Les matchs auront lieu à la fin du mois prochain.
Socapor Peinture vous présente la météo. Socapor Peinture, de grandes marques adaptées à tous vos besoins. Tolin, Swati, l'Unicalo pour professionnels et particuliers et des milliers de teintes disponibles. Socapor Peinture, c'est à Ducos.
Et la météo, c'est avec vous Thierry.
Oui Nicolas, ce matin, quelques ondées circuleront sur l'île des Pins, la pointe sud, l'est et les Loyautés. Le temps sera sec et bien ensoleillé ailleurs. Le vent orienté sud-est, compris entre 10 et 15 nœuds, il sera localement faible sur l'ouest en début de journée. Cet après-midi, le soleil dominera sur l'ouest, la pointe sud. D'ailleurs, les nuages prendront l'avantage avec des averses qui se développeront sur le relief et déborderont sur l'est et d'autres qui se formeront sous le vent des Loyautés. L'Alizé orienté sud-est pour cet après-midi, 15 à 20 nœuds sur l'ouest, voire un bon 20 nœuds sur le sud-ouest. Il se maintient entre 10 et 15 nœuds ailleurs. Les températures maximales sont comprises en général entre 29 et 30 degrés jusqu'à 31 voire 32 degrés, ce sera sur l'ouest.
Merci beaucoup Thierry, merci à tous d'avoir suivi ce journal.